La petite comtesse d'Octave Feuillet. Chapitre 1er. Georges L. à Paul B. à Paris. Du Rosel, 15 septembre. Il est 9 heures du soir, mon ami, et tu arrives d'Allemagne. On te remet ma lettre, dont le timbre t'annonce d'abord que je suis absent de Paris. Tu te permets un geste d'humeur et tu me traites de vagabond. Cependant, tu te plonges dans ton meilleur fauteuil, tu ouvres ma lettre et tu apprends que je suis installé depuis 5 jours dans un moulin de Basse-Normandie. Un moulin ? Comment diantre ? Que peut-il faire dans un moulin ? Ton front se plisse, tes sourcils se rapprochent, tu déposes ma lettre pour un moment. Tu prétends pénétrer ce mystère par le seul effort de ton imaginative. Soudain, un aimable enjouement se peint sur tes traits. Ta bouche exprime l'ironie du sage, tempérée par l'indulgence de l'ami. Tu as entrevu dans un nuage d'opéra comique une meunière poudrée, un corsage de ruban en échelle, une jupe fine et courte et des bas à coins dorés. Bref, une de ces meunières dont le cœur fait tic-tac avec accompagnement de hautbois. Mais les grâces qui se jouent sans cesse devant ta pensée, l'égare parfois. Ma meunière ressemble à la tienne comme je ressemble au jeune Colin. Elle est coiffée d'un vaste bonnet de coton auquel la couche la plus intense de farine ne réussit pas à rendre sa couleur primitive. Elle porte un jupon d'une étoffe de laine grossière qui écorcherait la peau d'un éléphant. Bref, il m'arrive fréquemment de confondre la meunière avec le meunier. Après quoi, il est superflu d'ajouter que je ne suis nullement curieux de savoir si son cœur fait tic-tac. La vérité est que, ne sachant comment tuer le temps en ton absence et n'ayant pas lieu d'espérer ton retour avant 1 mois, c'est ta faute. J'ai sollicité une mission. Le conseil général du département de... venait tout à point d'émettre le vœu qu'une certaine abbaye ruinée, dite l'abbaye du Rosel, fut classée parmi les monuments historiques. On m'a chargé d'examiner de près les titres de la postulante. Je me suis rendu en toute hâte au chef-lieu de ce département artistique, où j'ai fait mon entrée avec la gravité importante d'un homme qui tient entre ses mains la vie ou la mort d'un monument cher au pays. J'ai pris dans l'hôtel quelques renseignements. Grande a été ma mortification quand j'ai reconnu que personne ne paraissait soupçonner qu'une abbaye du Rosel existât ou eût jamais existé à 100 lieues à la ronde. Je me suis présenté à la préfecture sous le coup de ce désenchantement. Le préfet, qui est V, que tu connais, m'a reçu avec sa bonne grâce ordinaire. Mais aux questions que je lui adressais sur l'état des ruines, qu'il s'agissait de conserver à l'amour traditionnel de ses administrés, il m'a répondu avec un sourire distrait que sa femme, qui avait vu ces ruines dans une partie de campagne pendant son séjour au bain de mer, m'en parlerait mieux qu'il ne saurait le faire. Il m'invita à dîner, et le soir, Madame V, après les combats ordinaires de la pudeur expirante, me montra sur son album quelques vues des fameuses ruines, dessinées avec goût. Elle s'exalta tout doucement en me parlant de ces vénérables restes, encadrés, si on l'en croit, dans un site enchanteur, et fort propre surtout aux parties de campagne. Un regard suppliant et corrupteur termina sa harangue. Il me semble évident que cette jeune femme est la seule personne du département qui porte à cette pauvre vieille abbaye un intérêt véritable, et que les pères conscrits du conseil général ont émis un vœu de pure galanterie. Au surplus, il m'est impossible de ne pas me ranger à leur opinion. L'abbaye a de beaux yeux, elle mérite d'être classée, elle le sera. Mon siège était donc fait dès ce moment. mais il fallait encore l'écrire et l'appuyer de quelques pièces justificatives. Malheureusement, les archives et les bibliothèques locales n'abondent pas en traditions relatives à mon sujet. Après 2 jours de fouilles consciencieuses, je n'avais recueilli que de rares et insignifiants documents qui peuvent se résumer dans ces 2 lignes. Abbaye du Rosel, commune du Rosel, a été habitée de temps immémorial par les moines, qui l'ont quittée lorsqu'elle a été détruite. C'est pourquoi je résolus d'aller, sans plus de retard, demander leur secret à ces ruines mystérieuses, et de multiplier au besoin les artifices de mon crayon pour suppléer à la concision forcée de ma plume. Je partis mercredi matin pour le gros bourg de qui n'est qu'à 2 ou 3 lieues de l'abbaye. Un coche normand, compliqué d'un cocher normand, me promena tout le jour, comme un monarque indolent, le long des haies normandes. Le soir, j'avais fait 12 lieues, et mon cocher 12 repas. Le pays est beau, quoique d'un caractère agreste un peu uniforme. Sous un bocage éternel se déploie une verdure opulente et monotone, dans l'épaisseur de laquelle ruminent des bœufs satisfaits. Je conçois les 12 repas de mon cocher. L'idée de manger doit se présenter fréquemment et presque uniquement à l'imagination de tout homme qui passe sa vie au milieu de cette grasse nature, dont l'herbe même donne appétit. Vers le soir, cependant, l'aspect du paysage changea. Nous entrâmes dans des plaines basses, marécageuses et nues comme des steppes, qui s'étendaient de chaque côté de la route. Le bruit des roues sur la chaussée prit une sonorité creuse et vibrante. Des joncs de couleur sombre et de hautes herbes d'apparence malsaine couvraient à perte de vue la surface noirâtre du marais. J'aperçus au loin, à travers le crépuscule et derrière un rideau de pluie, 2 ou 3 cavaliers lancés à toute bride, qui parcouraient, comme affolés, ces espaces sans bornes. Ils s'ensevelissaient par intervalles dans les bas-fonds du pâturage et reparaissaient tout à coup, galopant toujours avec la même frénésie. Je ne pouvais imaginer vers quel but idéal se précipitaient ces fantômes équestres. Je n'eus garde de m'en informer. Le mystère est doux et sacré. Le lendemain, je m'acheminai vers l'abbaye, emmenant dans mon cabriolet un grand paysan qui avait les cheveux jaunes comme Cérès. C'était un valet de ferme qui demeurait depuis sa naissance à 2 pas de mon monument. Il m'avait entendu le matin prendre des informations dans la cour de l'auberge et s'était offert obligeamment à me conduire aux ruines, qui étaient la première chose qu'il eût vue en venant au monde. Je n'avais nul besoin d'un guide. J'acceptai cependant l'offre de ce garçon, dont l'officieux bavardage semblait me promettre une conversation suivie, où j'espérais surprendre quelques légendes intéressantes. Mais dès qu'il eut pris place à mes côtés, le drôle devint muet. Mes questions semblaient même, je ne sais pourquoi, lui inspirer une profonde méfiance, voisine de la colère. J'avais affaire au génie des ruines, gardien jaloux de leurs trésors. En revanche, j'eus l'avantage de le ramener chez lui en voiture. C'était apparemment ce qu'il avait voulu, et il eut tout lieu d'être satisfait de ma complaisance. Après avoir déposé devant sa porte cet agréable compagnon, je dus mettre moi-même pied à terre. Un escalier de rocher, serpentant sur le flanc d'une lande, me conduisit au fond d'une étroite vallée qui s'arrondit et s'allonge entre une double chaîne de hautes collines boisées. Une petite rivière y dort sous les aunes, séparant 2 bandes de prairies fines et moelleuses comme les pelouses d'un parc. On la traverse sur un vieux pont d'une seule arche qui dessine dans une eau tranquille le reflet de sa gracieuse ogive. Sur la droite, les collines se rapprochent en forme de cirque et semblent réunir leurs courbes verdoyantes. À gauche, elles s'évasent et vont se perdre dans la masse haute et profonde d'une forêt. La vallée est ainsi close de toutes parts et offre un tableau dont le calme, la fraîcheur et l'isolement pénètre l'âme. Si l'on pouvait jamais trouver la paix hors de soi-même, ce doux asile la donnerait. Il en donne du moins, pour un instant, l'illusion. Le site eût suffi pour me faire deviner l'abbaye, qui sans doute succéda à l'ermitage. Dans cette période de transition brutale et convulsive qui ouvrit si péniblement l'ère moderne, quel immense besoin de repos et de recueillement devait se faire sentir aux âmes délicates et aux esprits contemplatifs. Je lis dans le cœur du moine, du poète, du spiritualiste inconnu, que le hasard amena un jour, au milieu de cet âge terrible, sur la pente de ces collines, et qui découvrit soudain le trésor de solitude qu'elle recelait. Je me figure l'attendrissement de ce rêveur fatigué en face d'une scène si paisible. Je me le figure, et en vérité, je ne suis pas loin de le partager. Notre époque, à travers de grandes dissemblances, n'est pas sans quelques rapports essentiels avec les premiers temps du Moyen-Âge. Le désordre moral, la convoitise matérielle, la violence barbare, qui caractérisait cette phase sinistre de notre histoire, ne semblent éloignés de nous aujourd'hui que de la distance qui sépare la théorie de la pratique, le complot de l'exécution et l'âme perverse de la main criminelle. Les ruines de l'abbaye sont adossées à la forêt. Ce qui survit de l'abbaye elle-même est peu de chose. À l'entrée de la cour, une porte monumentale. Une aile de bâtiment du XIIe siècle où loge la famille du meunier dont je suis l'hôte. La salle du chapitre, remarquable par d'élégants arceaux et quelques traces de peinture murale. Enfin deux ou trois cellules, dont une paraît avoir servi de lieu de correction, si j'en juge par la solidité de la porte et des verrous. Le reste a été démoli et se retrouve par fragments dans les maisonnettes du voisinage. L'église, qui a presque les proportions d'une cathédrale, est d'une belle conservation et d'un effet merveilleux. Le portail et le chevet de l'abside ont seuls disparu. Toute l'architecture intérieure, les voussures, les hautes colonnes sont intactes et comme faites d'hier. Là, il semble qu'un artiste ait présidé à l'œuvre de destruction. Un coup de pioche magistral a ouvert aux deux extrémités de l'église, à la place du portail et à la place de l'autel, deux baies gigantesques, de sorte que le regard du seuil de l'église plonge dans la forêt, comme à travers un profond arc triomphal. Dans ce lieu solitaire, cela est inattendu et solennel. J'en fus ravi. Monsieur, dis-je au meunier, qui depuis mon arrivée observait de loin chacun de mes pas avec cette méfiance féroce qui semble particulière au pays. Je suis chargé d'étudier et de dessiner ces ruines. Ce travail me demandera plusieurs jours. Ne pourriez-vous m'épargner une course quotidienne du bourg à l'abbaye en me logeant chez vous tant bien que mal pendant une semaine ou deux ? Le meunier, normand de race, m'examina des pieds à la tête sans me répondre, en homme qui sait que le silence est d'or. Il me toisa, me jaugea, me pesa, et, finalement, desserrant ses lèvres enfarinées, il appela sa femme. La meunière apparut alors sur le seuil de la salle du chapitre, convertie en étable à veau, et je dus lui renouveler ma demande. Elle m'examina, à son tour, mais moins longuement que son mari, et avec le flair supérieur de son sexe. Sa conclusion fut, comme j'avais droit de m'y attendre, celle du praesès dans le malade. Dignus est intrare. Le meunier, qui vit la tournure que prenaient les choses, souleva son bonnet et me régala d'un sourire. Ces braves gens, du reste, une fois la glace rompue, s'ingénièrent à me dédommager par mille attentions empressées de la prudence de leur accueil. Ils voulaient m'abandonner leur propre chambre, ornée des aventures de Télémaque, à laquelle je préférais, comme eût fait Mentor, une cellule d'une austère nudité, dont la fenêtre à petits carreaux losangés s'ouvre sur le portail ruiné de l'église et sur l'horizon de la forêt. Plus jeune de quelques années, j'aurais joui très vivement de cette poétique installation. Mais je grisonne, ami Paul, ou du moins j'en ai bien peur, bien que j'essaie encore d'attribuer à de simples jeux de lumière les tons douteux dont ma barbe s'émaille au soleil du midi. Toutefois, si ma rêverie a changé d'objet, elle dure encore et me charme toujours. Mon sentiment poétique s'est modifié et je crois qu'il s'est élevé. L'image d'une femme n'est plus l'élément indispensable de mon rêve. Mon cœur, plus calme et qui s'étudie à l'être, se retire peu à peu du champ où s'exerce ma pensée. Je ne puis, je l'avoue, trouver un plaisir suffisant dans les pures et sèches méditations de l'intelligence. Il faut que mon imagination parle d'abord et donne le branle à mon cerveau. Il faut qu'un spectacle me touche et me provoque à penser, car je suis née romanesque. Romanesque, je mourrai. Et tout ce qu'on peut me demander, tout ce que je puis obtenir de moi, à l'âge où la bienséance commande déjà la gravité, c'est de faire des romans sans amour. Les monuments du passé favorisent cette disposition incurable de mon esprit. Ils m'aident à ressusciter les mœurs, les passions, les idées de leurs anciens habitants, et à interroger, sous les caractères variés de chaque époque, la vieille énigme de la vie. Dans cette cellule où je t'écris, je ne manque pas d'évoquer chaque soir des robes de bure et des visages macérés. Un moine m'apparaît, tantôt à genoux dans cet angle obscur, sur cette dalle usée, plongée dans les heureuses extases de la foi, tantôt accoudé sur cette noire tablette de chêne, couvrant d'auréoles d'or le parchemin des missels, perpétuant les œuvres du génie antique, ou poursuivant sa science, qui l'effraie, jusqu'aux limites de la magie. Un autre fantôme, debout près de l'étroite fenêtre, attache son regard humide sur la profondeur de ses bois, qui lui rappelle les chasses chevaleresques et les pâles froids des châtelaines. Tu en diras ce qu'il te plaira. J'aime les moines, non pas les moines de la décadence, les moines fainéants, pansus et vergaillards, qui firent la joie de nos pères et qui ne font pas la mienne. J'aime et je vénère cette ancienne société monastique, telle que je me la figure, recrutée parmi les races malheureuses et vaincues, conservant seule, au milieu d'un monde barbare, le sentiment et le goût des jouissances de l'esprit, ouvrant un refuge, et le seul refuge possible dans une telle époque, à toute intelligence qui laissait voir, fût-ce sous le sillon de l'esclave quelque étincelle de génie. Combien de poètes, de savants, d'artistes, d'inventeurs anonymes ont dû bénir pendant 10 siècles ce droit d'asile respecté qui les avait arrachés aux misères poignantes et à la vie bestiale de la glèbe. L'abbaye aimait à découvrir ces pauvres penseurs plébéiens et à seconder le développement de leurs aptitudes diverses. Elle leur assurait le pain de chaque jour et le doux bienfait du loisir. Elle s'honorait et se parait de leurs talents. Quoique leur cercle fût étroit, ils y exerçaient du moins librement les facultés qu'ils tenaient de Dieu. Ils vivaient heureux, quoiqu'ils dussent mourir ignorés. Que plus tard le cloître se soit écarté de ses nobles et sévères traditions, qu'il ait dégénéré de chute en chute jusqu'au frère Fredon et jusqu'au directeur spirituel de Panurge, cela est possible. Il a dû subir le destin commun à toutes les institutions qui ont fait leur temps et qui survivent à leur œuvre accomplie. Toutefois, il se peut bien que l'esprit gaulois de la bourgeoisie émancipée, auquel vint s'ajouter bientôt l'esprit de la réforme, est dessiné dans nos vieilles abbayes plus de caricatures que de portraits. Quoi qu'il en soit, même en lisant Rabelais avec le respect qui convient, aucun homme doué de pensée ne saurait oublier que, durant cette triste nuit du Moyen-Âge, le dernier rayon de la pure vie intellectuelle éclaire le front pâle du moine. Jusqu'à présent, l'ennui m'a épargné dans ma solitude. T'avouerai-je même que j'y éprouve un contentement singulier. Il me semble que je suis à 1000 lieues des choses d'ici-bas, et qu'il y a une sorte de trêve et de temps d'arrêt dans la misérable routine de mon existence, à la fois tourmentée et banale. Je savoure ma complète indépendance avec l'allégresse naïve d'un Robinson de 12 ans. Je dessine quand il me plaît, le reste du temps je me promène, çà et là, à l'aventure, en ayant grand soin de ne jamais franchir les bornes du vallon sacré. Je m'assois sur le parapet du pont et je regarde couler l'eau. Je vais à la découverte dans les ruines, je m'enfonce dans les souterrains, j'escalade les degrés rompus du beffroi. Je ne puis les redescendre et je demeure à cheval sur une gargouille, faisant une assez sotte figure, jusqu'à ce que le meunier m'apporte une échelle. Je m'égare la nuit dans la forêt et je vois passer les chevreuils au clair de lune. Que veux-tu ? Tout cela me berce agréablement et me produit l'impression d'un rêve d'enfant que je fais dans l'âge mûr. Ta lettre, datée de Cologne et qu'on m'a renvoyée ici suivant mes instructions, a seule troublé ma béatitude. Je me console difficilement d'avoir quitté Paris presque à la veille de ton retour. Que le ciel confonde tes caprices et ton indécision. Tout ce que je puis faire maintenant, c'est de hâter mon travail. Mais où trouver les documents historiques qui me manquent? Je tiens sérieusement à sauver ces ruines. Il y a là un paysage rare, un tableau de prix qu'on ne peut laisser périr sans vandalisme. Et puis, j'aime les moines, te dis-je. Je veux rendre à leurs ombres cet hommage de sympathie. Oui, si j'avais vécu il y a quelques 1000 ans, j'aurais certainement cherché parmi eux le repos du cloître en attendant la paix du ciel. Quelle existence m'eût mieux convenu? Sans souci de ce monde et assuré de l'autre, sans trouble du cœur ni de l'esprit, j'aurais écrit paisiblement de douces légendes auxquelles j'eusse été crédule. J'aurais déchiffré curieusement des manuscrits inconnus et découvert en pleurant de joie l'Iliade ou l'Énéide. J'aurais dessiné des rêves de cathédrales, chauffé des alambics et peut-être inventé la poudre. Ce n'est pas ce que j'aurais fait de mieux. Allons, il est minuit. Frère, il faut dormir. Post-scriptum. Il y a des spectres. Je fermais cette lettre, mon ami, au milieu d'un silence solennel, quand soudain, mon oreille s'est emplie de bruits mystérieux et confus qui paraissaient venir du dehors, et où j'ai cru distinguer le sourd murmure d'une foule. Je me suis approché, fort surpris, de la fenêtre de ma cellule, et je ne saurais trop te dire la nature précise de l'émotion que j'ai ressentie en apercevant les ruines de l'église éclairées d'une lumière resplendissante. Le vaste portail et les ogives béantes jetaient des flots de clarté jusque sur les bois lointains. Ce n'était point, ce ne pouvait être un incendie. J'entrevoyais d'ailleurs, à travers les trèfles de pierre, des ombres de taille surhumaine qui passaient dans la nef, paraissant exécuter avec une sorte de rythme quelques cérémonies bizarres. J'ai brusquement ouvert ma fenêtre. Au même instant, de bruyantes fanfares ont éclaté dans la ruine et ont fait retentir tous les échos de la vallée. Après quoi, j'ai vu sortir de l'église une double file de cavaliers armés de torches et sonnant du cor, quelques-uns vêtus de rouge, d'autres drapés de noir et la tête couverte de panaches. Cette étrange procession a suivi, toujours dans le même ordre, avec le même éclat et les mêmes fanfares, le chemin ombragé qui borde les prairies. Arrivée sur le petit pont, elle a fait une station. J'ai vu les torches s'élever, s'agiter et lancer des gerbes d'étincelles. Les cors ont fait entendre une cadence prolongée et sauvage. Puis soudain, toute lumière a disparu, tout bruit a cessé, et la vallée s'est ensevelie de nouveau dans les ténèbres et dans le silence profond de minuit. Voilà ce que j'ai vu et entendu. Toi qui arrives d'Allemagne, as-tu rencontré le chasseur noir? Non? Pends-toi donc. Deuxième chapitre. 16 septembre. L'ancienne forêt de l'abbaye appartient à un riche propriétaire du pays, le marquis de Malouet, descendant de Nemrod, et dont le château paraît être le centre social du pays. Il y a presque chaque jour en cette saison grande chasse dans la forêt. Hier, la fête s'acheva par un souper sur l'herbe, suivi d'un retour au flambeau. J'aurais volontiers étranglé l'honnête meunier qui m'a donné à mon réveil cette explication en langue vulgaire de ma balade de minuit. Voilà donc le monde qui envahit avec toutes ses pompes ma chère solitude. Je le maudis, Paul, dans toute l'amertume de mon cœur. Je lui ai dû, hier soir, à la vérité, une apparition fantastique qui m'a charmée. Mais je lui dois aujourd'hui une aventure ridicule dont je suis seule à ne point rire, car j'en suis le héros. J'étais ce matin mal disposée au travail. J'ai dessiné toutefois jusqu'à midi, mais il m'a fallu y renoncer. J'avais la tête lourde, l'humeur maussade. Je sentais vaguement dans l'air quelque chose de fatal. Je suis rentrée un instant au moulin pour y déposer mon attirail. J'ai chicané la meunière consternée au sujet de je ne sais quelle brouée cruellement indigène qu'elle m'avait servi à déjeuner. J'ai rudoyé les deux enfants de cette bonne femme qui touchait à mes crayons. Enfin, j'ai donné au chien du logis un coup de pied accompagné de la célèbre formule « Juge, si tu m'avais fait quelque chose ». Assez peu satisfait de moi-même, comme tu le penses, après ces trois petites lâchetés, je me suis dirigé vers la forêt pour m'y dérober autant que possible à la lumière du jour. Je me suis promené près d'une heure sans pouvoir secouer la mélancolie prophétique qui m'obsédait. Avisant enfin au bord d'une des avenues qui traversent la forêt et sous l'ombrage des hêtres un épais lit de mousse, je m'y suis étendu avec mes remords et je n'ai pas tardé à m'y endormir d'un profond sommeil. Dieu, que n'était-ce celui de la mort ? Je ne sais depuis combien de temps je dormais, quand j'ai été réveillé tout à coup par un certain ébranlement du sol dans mon voisinage immédiat. Je me suis levé brusquement et j'ai vu, à quatre pas de moi, dans l'avenue, une jeune femme à cheval. Mon apparition subite a un peu effrayé le cheval qui a fait un écart. La jeune femme, qui ne m'avait pas encore aperçue, le ramenait en lui parlant. Elle m'a paru jolie, mince, élégante. J'ai entrevu rapidement des cheveux blonds, des sourcils d'une nuance plus foncée, un œil vif, un air de hardiesse et un feutre à panache bleu campé sur l'oreille avec trop de crânerie. Pour l'intelligence de ce qui va suivre, il faut que tu saches que j'étais vêtue d'une blouse de touriste maculée d'ocre rouge. De plus, je devais avoir cet œil hagard et cette mine effarée qui donnent à celui qu'on éveille en sursaut une physionomie à la fois comique et alarmante. Joins à tout cela une chevelure en désordre, une barbe semée de feuilles mortes, et tu n'auras aucune peine à t'expliquer la terreur qui a subitement bouleversé la jeune chasseresse au premier regard qu'elle a jeté sur moi. Elle a poussé un faible cri et, tournant bride aussitôt, elle s'est sauvée au galop de bataille. Il m'était impossible de me méprendre sur la nature de l'impression que je venais de produire. Elle n'avait rien de flatteur. Toutefois, j'ai 35 ans, et il ne suffit plus, Dieu merci, du coup d'œil plus ou moins bienveillant d'une femme pour troubler la sérénité de mon âme. J'ai suivi d'un regard souriant la fuyante amazone. À l'extrémité de l'allée dans laquelle je venais de ne point faire sa conquête, elle a tourné brusquement à gauche, s'engageant dans une avenue parallèle. Je n'ai eu qu'à traverser le fourré voisin pour la voir rejoindre une cavalcade composée de 10 ou 12 personnes qui semblaient l'attendre et auxquelles elle criait de loin, d'une voix entrecoupée. « Messieurs, messieurs, un sauvage! Il y a un sauvage dans la forêt !» Intéressé par ce début, je m'installe commodément derrière un épais buisson, l'œil et l'oreille également attentifs. On entoure la jeune femme. On suppose d'abord qu'elle plaisante, mais son émotion est trop sérieuse pour n'avoir point d'objet. Elle a vu, elle a bien clairement vu, non pas précisément un sauvage, si on veut, mais un homme déguenillé, dont la blouse en lambeaux semblait couverte de sang, dont le visage, les mains et toute la personne étaient d'une saleté repoussante, la barbe effroyable, les yeux à moitié sortis de leurs orbites. Bref, un individu près duquel le plus atroce brigand de Salvator n'est qu'un berger de Watteau. Jamais amour-propre d'homme ne fut à pareille fête. Cette charmante personne ajoutait que je l'avais menacée et que je m'étais jetée, comme le spectre de la forêt du Mans, à la tête de son cheval. À ce récit merveilleux répond un cri général et enthousiaste. « Donnons-lui la chasse, cernons-le, traquons-le, hop, hurrah !» Et là-dessus, toute la cavalerie s'ébranle au galop sous la direction de l'aimable conteuse. Je n'avais, suivant toute apparence, qu'à demeurer tranquillement blotti dans ma cachette pour dépister les chasseurs, qui m'allaient chercher dans l'avenue où j'avais rencontré l'Amazone. Malheureusement, j'eus la pensée, pour plus de sûreté, de gagner le fourré qui se présentait en face de moi. Comme je traversais le carrefour avec précaution, un cri de joie sauvage m'apprend que je suis aperçu. En même temps, je vois l'escadron tourner bride et revenir sur moi comme un torrent. Un seul parti raisonnable me restait à prendre, c'était de m'arrêter, d'affecter l'étonnement d'un honnête promeneur qu'on dérange, et de déconcerter mes assaillants par une attitude à la fois digne et simple. Mais, saisi d'une sotte honte, qu'il est plus facile de concevoir que d'expliquer, convaincu d'ailleurs qu'un effort vigoureux allait suffire pour me délivrer de cette poursuite importune et pour m'épargner l'embarras d'une explication, je commets la faute à jamais déplorable de hâter le pas, ou plutôt, pour être franc, de me sauver à toutes jambes. Je traverse le chemin comme un lièvre et je m'enfonce dans le fourré, salué au passage d'une salve de joyeuses clameurs. Dès cet instant, mon destin est accompli. Toute explication honorable me devenait impossible. J'avais ostensiblement accepté la lutte avec ses chances les plus extrêmes. Cependant, je possédais encore une certaine dose de sang-froid, et tout en fendant les broussailles avec fureur, je me berçais de réflexions rassurantes. Une fois séparé de mes persécuteurs par l'épaisseur d'un fourré inaccessible à la cavalerie, je saurais gagner assez d'avance pour me rire de leurs vaines recherches. Cette dernière illusion s'est évanouie. Lorsque, arrivé à la limite du couvert, j'ai reconnu que la troupe maudite s'était divisée en deux bandes, qui m'attendaient l'une et l'autre au débouché. À ma vue, il s'est élevé une nouvelle tempête de cris et de rires, et les trompes de chasse ont retenti de toutes parts. J'ai eu le vertige. La forêt a tourbillonné autour de moi. Je me suis jeté dans le premier sentier qui s'est offert à mes yeux, et ma fuite a pris le caractère d'une déroute désespérée. La légion implacable des chasseurs et des chasseresses n'a pas manqué de s'élancer sur mes traces avec un redoublement d'ardeur et de stupide gaieté. Je distinguais toujours à leur tête la jeune femme au panache bleu, qui se faisait remarquer par un acharnement particulier et que je vouais de bon cœur aux accidents les plus sérieux de l'équitation. C'était elle qui encourageait ses odieux complices quand j'étais parvenu un instant à leur dérober ma piste. Elle me découvrait avec une clairvoyance infernale, me montrait du bout de sa cravache et poussait un éclat de rire barbare quand elle me voyait reprendre ma course à travers les halliers, soufflant, haletant, éperdu, absurde. J'ai couru ainsi pendant un temps que je ne saurais apprécier, accomplissant des prouesses de gymnastique inouïes, perçant les taillis épineux, m'embourbant dans les fondrières, sautant les fossés, rebondissant sur mes jarrets avec l'élasticité d'un tigre, galopant à la diable, sans raison, sans but, et sans autre espérance que de voir la terre s'entr'ouvrir sous mes pas. Enfin, et par un simple effet du hasard, car depuis longtemps j'avais perdu toute notion topographique, j'ai aperçu les ruines devant moi. J'ai franchi, par un dernier élan, l'espace libre qui les sépare de la forêt. J'ai traversé l'église comme un excommunié, et je suis arrivé, tout flambant, devant la porte du moulin. Le meunier et sa femme étaient sur le seuil, attirés par le bruit de la cavalcade, qui me suivait de près. Ils m'ont regardé avec une expression de stupeur. J'ai vainement cherché quelques paroles d'explication à leur jeter en passant, et après d'incroyables efforts d'intelligence, je n'ai pu que leur murmurer niaisement « Si on me demande, dites que je ne suis pas. » Puis j'ai gravi d'un saut l'escalier de ma cellule et je suis venu tomber sur mon lit dans un état de complet épuisement. Cependant, Paul, la chasse se précipitait tumultueusement dans la cour de l'abbaye. J'entendais le piétinement des chevaux, la voix des cavaliers et même le son de leurs bottes sur les dalles du seuil, ce qui me prouvait qu'une partie d'entre eux avait mis pied à terre et me menaçait d'un dernier assaut. Je me suis relevé avec un mouvement de rage et j'ai regardé mes pistolets. Heureusement, après quelques minutes de conversation avec le meunier, les chasseurs se sont retirés, non sans me laisser clairement entendre que s'ils avaient pris meilleure opinion de ma moralité, ils emportaient une idée fort réjouissante de l'originalité de mon caractère. Tel est, mon ami, l'historique fidèle de cette journée malheureuse où je me suis couvert franchement et des pieds à la tête d'une espèce d'illustration à laquelle tout Français préférera celle du crime. J'ai à cette heure la satisfaction de savoir que je suis, dans un château voisin, au milieu d'une société de brillants cavaliers et de belles jeunes femmes, un texte de plaisanterie inépuisable. Je sens de plus, depuis mon mouvement de flanc, comme on a coutume d'appeler à la guerre les retraites précipitées, que j'ai perdu à mes propres yeux quelque chose de ma dignité, et je ne puis me dissimuler en outre que je suis loin de jouir auprès de mes hôtes rustiques de la même considération. En présence d'une situation si gravement compromise, j'ai dû tenir conseil. Après une courte délibération, j'ai rejeté bien loin, comme puéril et pusillanime, le projet que me suggérait mon amour-propre aux abois, celui de quitter ma résidence et même d'abandonner le pays. J'ai pris le parti de poursuivre philosophiquement le cours de mes travaux et de mes plaisirs, de montrer une âme supérieure aux circonstances et de donner enfin aux Amazones, aux Centaures et aux Meuniers le beau spectacle du sage dans l'adversité. Chapitre 3, 20 septembre. Je reçois ta lettre. Tu es de la vraie race des amis du Monomotapa. Mais quel enfantillage! Voilà la cause de ton brusque retour. Un rien, un méchant cauchemar qui, deux nuits de suite, te fait entendre ma voix t'appelant à mon secours. Ah, fruits amers de la détestable cuisine allemande! Vraiment, Paul, tu es bête! Tu me dis pourtant des choses qui me touchent jusqu'aux larmes. Je ne saurais te répondre à mon gré. J'ai le cœur tendre et le verbe sec. Je n'ai jamais pu dire à personne « je vous aime ». Il y a un démon jaloux qui altère sur mes lèvres toute parole de tendresse et lui donne une inflexion d'ironie. Mais, Dieu merci, tu me connais. Il paraît que je te fais rire quand tu me fais pleurer. Allons, tant mieux. Oui, ma noble aventure de la forêt a une suite, et une suite dont je me passerai bien. Tous les malheurs dont tu me sentais menacé sont arrivés. Sois donc tranquille. Le lendemain de ce jour néfaste, je débutais par reconquérir l'estime de mes hôtes du moulin en leur racontant de bonne grâce les plus piquants épisodes de ma course. Je les vis s'épanouir à ce récit. La femme en particulier se pâmait avec des convulsions atroces et des ouvertures de mâchoire formidables. Je n'ai rien vu de si hideux en ma vie que cette grosse joie de vachère. En témoignage d'un retour de sympathie complet, le meunier me demanda si j'étais chasseur, ôta du croc de sa cheminée un long tube rouillé qui me fit penser à la carabine de bas de cuir et me le mit entre les mains en me vantant les qualités meurtrières de cet instrument. J'acceptai sa politesse avec une apparence de vive satisfaction, n'ayant jamais eu le cœur de détromper les gens qui croient m'être agréable, et je me dirigeai vers les bois taillis qui couvrent les collines, portant comme une lance cette arme vénérable qui me paraissait en effet des plus dangereuses. J'allai m'asseoir dans les bruyères et je déposais le long fusil près de moi. Puis je m'amusais à écarter à coups de pierre les jeunes lapins qui venaient jouer imprudemment dans le voisinage d'une machine de guerre dont je ne pouvais répondre. Grâce à ces précautions, pendant plus d'une heure que dura ma chasse, il n'arriva d'accident ni au gibier ni à moi. À te dire vrai, j'étais bien aise de laisser passer le moment où les chasseurs du château avaient coutume de se mettre en campagne, ne me souciant pas, par un reste de vaine gloire, de me trouver sur leur passage ce jour-là. Vers 2 heures de l'après-midi, je quittai mon lit de menthe et de serpolet, convaincu que je n'avais à redouter désormais aucune rencontre importune. Je remis la canardière au meunier, qui sembla un peu étonné peut-être de me revoir les mains vides, et plus probablement de me revoir en vie. J'allai m'installer en face du portail, et j'entrepris d'achever une vue générale de la ruine, aquarelle magnifique qui doit enlever les suffrages du ministre. J'étais profondément absorbé dans mon travail, quand je crus tout à coup entendre plus distinctement qu'à l'ordinaire ce bruit de cavalerie qui, depuis ma mésaventure, chagrinait sans cesse mes oreilles. Je me retournai avec vivacité et j'aperçus l'ennemi à 200 pas de moi. Il était cette fois en tenue de ville, paraissant équipé pour une simple promenade. Il avait fait depuis la veille quelques recrues des deux sexes et offrait véritablement une masse imposante. Quoique préparé de longue main à cette occurrence, je ne pus me défendre d'un certain malaise, et je pestai fort contre ces désœuvrés infatigables. Toutefois, je n'eus pas même la pensée de faire retraite. J'avais perdu le goût de la fuite pour le reste de mes jours. À mesure que la cavalcade approchait, j'entendais des rires étouffés et des chuchotements dont le secret ne m'échappait point. Je dois t'avouer qu'un grain de colère commençait à fermenter dans mon cœur, et tout en continuant ma besogne avec l'apparence du plus vif intérêt et des poses de tête admiratives devant mon aquarelle, je prêtais à la scène qui se passait derrière moi une attention sombre et vigilante. Au surplus, l'intention définitive des promeneurs parut être de ménager mon infortune. Au lieu de suivre le sentier au bord duquel j'étais établi, et qui était le chemin le plus court pour gagner les ruines, ils s'écartèrent un peu sur la droite et défilèrent en silence. Un seul d'entre eux, quittant le groupe principal, fit brusquement une pointe de côté et vint s'arrêter à 10 pas de mon atelier. Quoique j'eusse le front penché sur mon dessin, je sentis, par cette étrange intuition que chacun connaît, un regard humain se fixer sur moi. Je levai les yeux d'un air d'indifférence, les rebaissant presque aussitôt. Ce rapide mouvement m'avait suffi pour reconnaître dans cet observateur indiscret la jeune dame au panache bleu, cause première de mes disgrâces. Elle était là, campée sur son cheval, le menton en l'air, les yeux à demi clos, me considérant des pieds à la tête avec une insolence admirable. J'avais cru devoir d'abord, par égard pour son sexe, m'abandonner sans défense à son impertinente curiosité. Mais au bout de quelques secondes, comme elle continuait son manège, je perdis patience. Et, relevant la tête plus franchement, j'arrêtai mon regard sur le sien, avec une gravité polie, mais avec une profonde insistance. Elle rougit. Ce que voyant, je la saluai. Elle me fit de son côté une légère inclination, s'éloigna au galop de chasse et disparut sous la voûte de la vieille église. Je demeurai ainsi maître du champ de bataille, savourant avec plaisir le triomphe de fascination que je venais de remporter sur cette petite personne, qu'il y avait assurément du mérite à décontenancer. La promenade dans la forêt dura 20 minutes à peine, et je vis bientôt la brillante Fantasia déboucher pêle-mêle hors du portail. Je feignis de nouveau une profonde abstraction, mais cette fois encore, un cavalier se détacha de la compagnie et s'avança vers moi. C'était un homme de grande taille qui portait un habit bleu boutonné militairement jusqu'à la gorge. Il marchait si droit sur mon petit établissement que je ne pus m'empêcher de lui supposer la résolution arrêtée de passer par-dessus, afin de faire rire les dames. Je le surveillais en conséquence d'un œil furtif, mais alerte, lorsque j'eus le soulagement de le voir s'arrêter à deux pas de mon tabouret et ôter son chapeau. « Monsieur, me dit-il d'une voix franche et pleine, voulez-vous me permettre de voir votre dessin ?» Je lui rendis son salut, m'inclinai en signe d'acquiescement et poursuivis mon travail. Après un moment de silencieuse contemplation, l'inconnu équestre laissa échapper quelques épithètes louangeuses qui semblaient lui être arrachées par la violence de ses impressions. Puis, reprenant la locution directe, « Monsieur, me dit-il, permettez-moi de rendre grâce à votre talent. Nous lui devrons, je n'en puis douter, la conservation de ces ruines qui sont l'ornement de notre pays. » Je quittai aussitôt ma réserve, qui n'eût plus été qu'une bouderie enfantine, et je répondis, comme il convenait, que c'était apprécier avec beaucoup d'indulgence une ébauche d'amateur, que j'avais au reste le plus vif désir de sauver ces belles ruines, mais que la partie la plus sérieuse de mon travail menaçait de demeurer très insignifiante, faute de renseignements historiques que j'avais vainement cherchés dans les archives du chef-lieu. « Parbleu, monsieur, reprit le cavalier, vous me faites grand plaisir. J'ai dans ma bibliothèque une bonne partie des archives de l'abbaye. Venez les consulter à votre loisir. Je vous en serai reconnaissant. » Je remerciai avec embarras. Je regrettais de n'avoir pas su cela plus tôt. Je craignais d'être rappelé à Paris par une lettre que j'attendais ce jour même. Cependant, je m'étais levé pour faire cette réponse, dont je m'efforçais d'atténuer la mauvaise grâce par la courtoisie de mon attitude. En même temps, je prenais une idée plus nette de mon interlocuteur. C'était un beau vieillard, à large poitrine, qui paraissait porter très vertement une soixantaine d'hivers, et dont les yeux bleu clair à fleur de tête exprimaient la bienveillance la plus ouverte. « Allons, allons !» s'écria-t-il. « Parlons franc. Il vous répugne de vous mêler à cette bande d'étourdis que voilà là-bas, et que je n'ai pu empêcher hier de faire une sottise pour laquelle je vous présente mes excuses. Je me nomme le marquis de Malouet, monsieur. Au surplus, les honneurs de la journée ont été pour vous. On voulait vous voir. Vous ne vouliez pas être vu. Vous avez eu le dernier mot. Qu'est-ce que vous demandez ?» Je ne pus m'empêcher de rire en entendant une interprétation si favorable de ma triste équipée. « Vous riez ? » reprit le vieux marquis. « Bravo, nous allons nous comprendre. Ah ça, qu'est-ce qui vous empêche de venir passer quelques jours chez moi ? Ma femme m'a chargé de vous inviter. Elle a compris par le menu tous vos ennuis d'hier. Elle a une bonté d'ange, ma femme. Elle n'est plus jeune, elle est toujours malade, c'est un souffle. Mais c'est un ange. Je vous logerai dans ma bibliothèque. Vous vivrez en ermite, si cela vous convient. Mon Dieu, je vois votre affaire, vous dis-je. Mes étourneaux vous font peur. Vous êtes un homme sérieux, je connais ce caractère-là. Eh bien, vous trouverez à qui parler. Ma femme est pleine d'esprit. Moi-même, je n'en manque pas. J'aime l'exercice, il est nécessaire à ma santé. Mais il ne faut pas me prendre pour une brute. Diable, pas du tout. Je vous étonnerai. Vous devez aimer le whist, nous le ferons ensemble. Vous devez aimer à bien vivre, délicatement, j'entends, comme il sied à un homme de goût et d'intelligence. Eh bien, puisque vous appréciez la bonne chère, je suis votre homme. J'ai un cuisinier excellent. J'en ai même deux pour le quart d'heure. Un qui part et l'autre qui arrive. Il y a conjonction. Cela fait une lutte savante, un tournoi académique dont vous m'aiderez à décerner le prix. Allons, ajouta-t-il en riant lui-même ingénument de son bavardage. Voilà qui est dit, n'est-ce pas? Je vous enlève? Heureux, Paul, l'homme qui sait dire non. Seul, il est vraiment maître de son temps, de sa fortune et de son honneur. Il faut savoir dire non, même à un pauvre, même à une femme, même à un vieillard aimable, sous peine de livrer à l'aventure sa charité, sa dignité et son indépendance. Faute d'un nom viril, que de misère, que de chute, que de crime, depuis Adam. Tandis que je pesais à part moi l'invitation qui m'était adressée, ces réflexions m'assaillirent en foule. J'en reconnus la profonde sagesse. Et je dis oui. Oui, fatal, par lequel je perdais mon paradis, échangeant une retraite complètement à mon gré, paisible, laborieuse, romanesque et libre, contre la gêne d'un séjour où la vie mondaine déploie toutes les fureurs de son insipide dissipation. Je réclamai le temps nécessaire pour préparer mon déménagement, et M. de Maloué me quitta, après une chaleureuse poignée de main, en me déclarant que je lui plaisais fort et qu'il allait exciter ses deux cuisiniers à me faire un accueil triomphal. « Je vais, me dit-il, leur annoncer un artiste, un poète. Ça va leur monter l'imagination. » Vers 5 heures, deux domestiques du château vinrent prendre mon mince bagage et m'avertirent qu'une voiture m'attendait au haut des collines. Je dis adieu à ma cellule. Je remerciai mes hôtes et j'embrassai leurs marmots, tout barbouillés et mal peignés qu'ils étaient. Ce petit monde sembla me voir partir avec regret. J'éprouvai moi-même une tristesse extraordinaire. Je ne sais quel étrange sentiment m'attachait à cette vallée, mais je la quittai le cœur serré, comme on quitte une patrie. À demain, Paul, car je n'en puis plus. Chapitre 4, 21 septembre. Le château de Malouet est une construction massive et assez vulgaire, qui date d'une centaine d'années. De belles avenues, une cour d'honneur d'un grand style et un parc séculaire lui prêtent toutefois une véritable apparence seigneuriale. Le vieux marquis vint me recevoir au bas du perron, passa son bras sous le mien, et après m'avoir fait traverser une longue file de corridors, m'introduisit dans un vaste salon où régnait une obscurité presque complète. Je ne pus qu'entrevoir vaguement, aux lueurs intermittentes du foyer, une vingtaine de personnages des deux sexes, espacés çà et là par petits groupes. Grâce à ce bienheureux crépuscule, je sauvai mon entrée, qui de loin s'était présentée à mon imagination sous un jour solennel et un peu alarmant. Je n'eus que le temps de recevoir le compliment de bienvenue que Madame de Maloué m'adressa d'une voix faible, mais pénétrante et sympathique. Elle me prit le bras presque aussitôt pour passer dans la salle à manger, ayant résolu, à ce qu'il paraît, de ne refuser aucune marque de considération à un coureur d'une si surprenante agilité. Une fois à table et en pleine lumière, je ne laissais pas de m'apercevoir que mes prouesses de la veille n'étaient pas oubliées et que j'étais le point de mire de l'attention générale. Mais je supportais bravement ce feu croisé de regards curieux et ironiques. Retranché d'une part derrière une montagne de fleurs qui ornait le milieu de la table et soutenu de l'autre dans ma position défensive par la bienveillance ingénieuse de ma voisine. Madame de Maloué est une de ces rares vieilles femmes qu'une force d'esprit supérieure ou une grande pureté d'âme ont protégées contre le désespoir à l'heure fatale de la 40e année et qui ont sauvé du naufrage de leur jeunesse une épave unique, mais un charme souverain, celui de la grâce. Petite, frêle, le visage pâli et macéré par une souffrance habituelle, elle justifie exactement le mot de son mari. C'est un souffle qui respire l'intelligence et la bonté. Aucune trace de prétention malséante à son âge. Un soin exquis de sa personne, sans ombre de coquetterie, un oubli complet de la jeunesse perdue, une sorte de pudeur d'être vieille, et un désir touchant, non de plaire, mais d'être pardonnée. Telle est cette marquise que j'adore. Elle a beaucoup voyagé, beaucoup lu, et connaît bien son Paris. Je m'égarai avec elle dans une de ces causeries rapides où deux esprits qui se rencontrent pour la première fois aiment à faire connaissance, allant d'un pôle à l'autre, effleurant toute chose, controversant avec gaieté et concordant avec bonheur. Monsieur de Malouet profita de l'enlèvement du plat gigantesque qui nous séparait pour s'assurer de l'état de mes relations avec sa femme. Il parut satisfait de notre bonne intelligence évidente, et élevant sa voix sonore et cordiale, « Monsieur, me dit-il, je vous ai parlé de mes deux cuisiniers rivaux. Voici le moment de me prouver que vous méritez la réputation de haut discernement dont je vous ai gratifié auprès de ces deux virtuoses. Hélas, je vais perdre le plus ancien, et sans contredit, le plus savant de ses maîtres, l'illustre Jean Rostaing. C'est lui, monsieur, qui, m'arrivant de Paris il y a 2 ans, me dit cette belle parole. Un homme de goût, monsieur le marquis, ne peut plus habiter Paris. On y fait maintenant une certaine cuisine romantique qui nous mènera loin. Bref, monsieur, Rostaing est classique. Cet homme rare a une opinion. Eh bien, vous venez de goûter successivement à 2 plats d'entremets dont la crème forme la base essentielle. Suivant moi, ces 2 plats sont réussis l'un et l'autre. Mais l'œuvre de Rostaing m'a paru d'une supériorité prononcée. Ah, monsieur, je suis curieux de savoir si vous pourrez de vous-même, et sur cette seule indication, assigner à chaque arbre son fruit et rendre à César ce qui est à César. Hein? Voyons cela. Je jetai un coup d'œil à la dérobée sur les restes des 2 plats que me signalait le marquis, et je n'hésitai pas à qualifier de classique celui que couronnait un temple de l'amour avec une image de ce dieu en pâte polychrome. « Touché !» s'écria le marquis. « Bravo ! Rostaing le saura, et son cœur en sera réjoui. Ah, monsieur, que n'ai-je eu l'honneur de vous recevoir chez moi quelques jours plus tôt ! J'aurais peut-être gardé Rostaing, ou pour mieux dire, Rostaing m'eût peut-être gardé. Car je ne puis vous cacher, messieurs les chasseurs, que vous n'êtes point dans les bonnes grâces du vieux chef, et je ne suis pas loin d'attribuer son départ, de quelque prétexte qu'il le colore, au dégoût dont l'abreuve votre indifférence. Je crus lui être agréable en lui annonçant, il y a 2 semaines, que nos réunions de chasse allaient lui assurer un concours d'appréciateurs dignes de ses talents. Monsieur le marquis m'excusera, me répondit Rostaing avec un sourire mélancolique, si je ne partage point ses illusions. En premier lieu, un chasseur dévore et ne mange point. Il apporte à table un estomac de naufragé, iratum ventrem, comme dit Horace, et engloutit sans choix et sans réflexion, guia et parince, les productions les plus sérieuses d'un artiste. En second lieu, l'exercice violent de la chasse a développé chez le convive une soif désordonnée qui s'assouvit généralement sans modération. Or, monsieur le marquis n'ignore pas le sentiment des anciens sur l'usage excessif du vin pendant le repas. Il émousse le goût. Exurdante vina palatum. Néanmoins, monsieur le marquis peut être assuré que je travaillerai pour ses invités avec ma conscience habituelle, quoique avec la douloureuse certitude de n'être point compris. En achevant ces mots, Rostaing se drapa dans sa toge, adressa au ciel le regard du génie méconnu et sortit de mon cabinet. « J'aurais cru, dis-je au marquis, qu'aucun sacrifice ne vous eût coûté pour retenir ce grand homme. Vous me jugez bien, monsieur, reprit monsieur de Malouet. Mais vous allez voir qu'il me conduisit jusqu'aux limites de l'impossible. Il y a précisément 8 jours, monsieur Rostaing, m'ayant demandé une audience particulière, m'annonça qu'il se voyait dans la pénible nécessité de quitter mon service. « Ciel, monsieur Rostaing, quitter mon service, et où irez-vous ? » « À Paris. » « Comment, à Paris ? Mais vous aviez secoué sur la grande Babylone la poudre de vos sandales. » La décadence du goût, l'essor de plus en plus marqué de la cuisine romantique. Ce sont vos propres paroles, Rostaing. Il soupira. Sans doute, monsieur le marquis, mais la vie de province a des amertumes que je n'avais point pressenties. Je lui proposai des gages fabuleux, il refusa. Voyons, qu'y a-t-il donc, mon ami? Ah, je sais. Vous n'aimez point la fille de cuisine. Elle trouble vos méditations par ses chants grossiers. Soit, je la congédie. Cela ne suffit pas? C'est donc Antoine qui vous déplaît? Je le renvoie. Est-ce mon cocher? Je le chasse. Bref, je lui offris, messieurs, toute ma maison en holocauste. À ces prodigieuses concessions, le vieux chef secouait la tête avec indifférence. « Mais enfin » m'écriai-je. « Au nom du ciel, monsieur Rostin, expliquez-vous. » « Mon Dieu, monsieur le marquis, » me dit alors Jean Rostin, « je vous avouerai qu'il m'est impossible de vivre dans un endroit où je ne trouve personne pour faire ma partie de billard. »« Ma foi, c'était trop fort !» ajouta le marquis avec une bonhomie plaisante. « Je ne pouvais pourtant pas faire moi-même sa partie de billard. J'ai dû me résigner. J'ai écrit aussitôt à Paris, et il m'est arrivé hier soir un jeune cuisinier à moustache qui m'a déclaré se nommer Jacquemart, des Deux-Sèvres. Le classique Rostin, par un sublime mouvement de gloire, a voulu seconder M. Jacquemart, des Deux-Sèvres, dans son premier travail. » Et voilà comment j'ai pu vous servir aujourd'hui, messieurs, ce grand repas éclectique, dont, je le crains, nous aurons seuls apprécié, monsieur et moi, les mystérieuses beautés. Monsieur de Malouet se leva de table en achevant l'épopée de Rostin. Après le café, je suivis les fumeurs dans la cour. La soirée était magnifique.